C'est le dernier cours du semestre, hein, et donc de l'année scolaire, pour la critique. La semaine prochaine, je n'en ferai pas, je suis pris par un examen de licence. Alors, nous allons essayer de continuer cette réflexion sur le point de vue de la recherche de la vérité. Alors, on me pose cette question. Quel est le critère de vérité du jugement ? Il est impossible qu'à partir du néant surgisse de l'être. Affirmation d'où découle, si une fois rien n'est, jamais rien ne sera. Fameuse affirmation que saint Thomas reprend du latin, qu'il le prend dans les voies d'existence de Dieu. Alors, il est impossible, quel critère ? Il est impossible qu'à partir du néant surgisse de l'être. Donc nous sommes en face de « il est impossible que ». Est-ce que c'est une conclusion ? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est une conclusion ou est-ce que c'est une affirmation qui est évidente par elle-même et qui donc n'implique pas de prémisse ? Alors, réduisez, c'est toujours comme ça qu'on doit faire, hein? Réduisez cette proposition « il est impossible », mettez « à partir du néant, jamais ne surgira l'être ». Il est impossible que exprime qu'entre le néant comme source et le point de vue de l'être, il n'y a aucune continuité. C'est ça que ça veut dire. Hein? Il est impossible qu'à partir du néant surgisse de l'être. Mais alors, est-ce que pour vous c'est évident ou est-ce que ce n'est pas évident ? Non, c'est la question. Parce que si c'est évident, ce n'est pas une proposition, donc c'est pas une proposition. Ce n'est pas une proposition conclue. Ce n'est pas une conclusion, nous ne cherchons pas de prémisse antérieure. Alors, c'est la question du néant et la question de l'apparition de l'être. Donc, ce qui est. Le néant égale le non-être. Le non-être et le néant n'est pas une cause. C'est une non-cause. N'est-ce pas ? Donc, c'est une non-cause qui, par le fait même, ne peut pas être source de l'être. Donc, c'est évident. Si je comprends, une proposition est évidente lorsque, à partir des termes qui sont inclus dans l'affirmation, connaissant ces termes, nous voyons ou qu'ils s'excluent ou qu'ils s'appellent. Oui. Or, le néant, le non-être et l'être s'excluent en fonction du principe de non-contradiction. En fonction du principe de non-contradiction, qui fait qu'en même temps, l'être et le non-être ne peuvent pas être affirmés sur la même chose. Si je pars du non-être, je ne peux pas affirmer en même temps l'être qui provient de ce non-être. Donc, en vertu de l'axiome de non-contradiction, je peux dire que du néant, jamais l'être n'apparaît pas. C'est donc une proposition évidente par elle-même. Bon. Ce n'est pas une conclusion. Il n'y a pas de métaxu. S'il y avait un métaxu, un intermédiaire pour lier les deux, alors à ce moment-là, vous pourrez chercher quelles sont les prémices et comprendre comment cette proposition est une conclusion. Vous voyez, quand il y a une proposition « il est impossible que », ça peut très bien être une conclusion, comme ça peut très bien ne pas être une conclusion. Comme du reste, tout jugement, toute énonciation, il faut se demander si c'est une conclusion ou si c'est un fait. Ou c'est un fait. Qu'on affirme à partir de l'expérience. Alors, je cherche maintenant le critère de vérité d'une telle proposition évidente. Le critère de vérité d'une proposition évidente se prend à l'intérieur même de cette proposition, surtout quand elle est négative. Si elle est négative, si elle est positive, elle a un fondement dans la réalité. Si elle est négative, elle a encore un fondement dans la réalité, mais pas un fondement direct dans la réalité. Parce que le non-être n'existe pas. Donc je ne vais pas chercher un fondement dans la réalité à partir du non-être. Chercher le fondement du non-être, vous ne trouverez pas. Quel est le fondement du non-être? Le fondement du non-être ne peut être que dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui fonde le non-être. Parce que c'est l'intelligence qui est capable de nier. Et l'intelligence est capable de nier à partir des limites. S'il n'y avait pas de limite dans la réalité, il n'y aurait pas de négation. Donc l'intelligence étant capable de nier peut très bien produire le non-être. Le non-être est un être de raison. Le néant est un être de raison. C'est un être qui est produit par l'intelligence et l'intelligence qui nie. L'intelligence dans sa capacité de nier. Ça, nous pouvons tous comprendre. Donc, cette proposition a en elle-même son propre critère de vérité. Et ce critère de vérité n'est pas autre chose que la signification des deux termes mis en présence. C'est à l'intérieur même de cette proposition que je trouve le critère de vérité. C'est que le non-être, en tant que non-être, pris comme absolu, c'est-à-dire comme néant, rejette l'être. Ce qui nous dit l'être. Donc c'est la signification du non-être qui permet de fonder le critère de cette affirmation. Oui. Oui. Il implique. Du principe de... Non, pas du principe de causalité. Sûrement pas. Le principe de causalité ne déduit pas ce principe-là. Parce que c'est négatif. Du non-être, quoi? Oui. Non. Parce que le principe de causalité efficiente, à propos d'où surgit l'être, ce serait la création. Oui, l'être, n'importe, ou une forme. Vous mettrez ce qui est, ou n'importe quelle réalité. Oui, si vous voulez, mais au fond, est-ce que je ne peux pas regarder les termes mêmes de l'affirmation? Vous prenez le non-être. Le non-être est une non-cause. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que le principe de causalité est impliqué dedans. Mais pas directement, ce n'est pas le principe de causalité. Qu'est-ce que c'est que la cause? Le non-être, comme tel, ne peut pas être une cause. Puisqu'il implique une négation absolue. Donc, d'une négation absolue, vient de venir. Vous allez me dire, ça, ceci, c'est tout simplement de montrer que, moi je mettais le principe de l'axiome de contradiction, parce que ça me semble plus immédiatement formulable. Vous voyez, que je ne peux pas affirmer en même temps l'être et le non-être. Si je suis en présence du non-être ne sort jamais rien. Vous pourriez l'expliquer d'une autre façon, par le principe de causalité, si vous voulez. Mais ça me semble moins direct, puisque je prends les significations qui sont impliquées dedans. Oui. Le principe de causalité efficiente consisterait à dire toute réalité limitée dépend d'une autre. On est d'accord là-dessus. Toute réalité limitée, hein, exprimons le principe de causalité efficiente. Le principe de causalité efficiente peut s'exprimer chez les néoplatoniciens de cette manière-là. Tout être parfait, du fait même qu'il est parfait, engendre un être semblable à lui-même. Mais au fond, quand j'exprime ce principe de causalité de cette manière-là, je l'exprime au niveau de la vie. Et je l'exprime au niveau vital, c'est pas le principe de causalité efficiente. C'est une constatation. Je ne peux pas dire que c'est un principe de causalité efficiente. Le principe de causalité efficiente, comment l'expliquer? que dans dans le devenir, lorsqu'apparaît le plus-être, il faut nécessairement que ce plus-être dépende d'un autre. Oui, si vous voulez. Est-ce que je ne peux pas l'exprimer d'une façon encore plus directe? Parce que là, vous faites appel, vous voyez, à la question du plus-être par rapport à un devenir, ce qui est au fond très difficile. C'est la question de l'évolution. Vous voyez? Parce qu'au fond, c'est l'état de l'évolution. Donc vous l'exprimez au niveau de la vie. Est-ce que vous ne pouvez pas l'exprimer au niveau proprement physique? Oui, ça pourrait être un niveau physique, une transformation. Que toute transformation, mettons ça, tout changement d'état, d'une réalité, où apparaît quelque chose de nouveau, dépend nécessairement d'un autre. Et cet autre étant sa cause. Vous voyez ? C'est le principe de causalité efficiente. Vous pourriez dire aussi que tout être limité, du fait même qu'il est limité, dépend d'un autre. Oui. En tant qu'il est limité. Parce qu'en tant qu'il est limité, il n'est pas sa cause propre de sa propre limite. Donc il dépend d'un autre. Mais vous pouvez très bien le dire comme vous le dites. Vous voyez, et d'une certaine manière, c'est peut-être plus manifeste et plus facile à comprendre. Vous voyez, que dans toute transformation, là où il y a une transformation, on peut dire que cette transformation, si elle implique un plus-être, que si c'est une transformation qui implique un moins-être, n'est-ce pas ? Les transformations peuvent être dans un sens positif ou dans un sens négatif. Bon, alors, si vous auriez une transformation dans un sens positif, vous diriez que dans toute transformation positive, où il y a un plus-être, il faut nécessairement que ça dépend d'un autre. Dans le cas d'une transformation négative, d'une dégradation, ça ne dépend pas nécessairement d'un autre. Parce qu'il suffirait d'expliquer que cet être possède en lui-même une potentialité pour que laissé à lui-même, il se dégrade. Vous voyez ? Bon, mais si elle peut... Alors, est-ce que c'est ça qui va expliquer ? Vous allez dire, à partir du néant, bon, il est impossible qu'à partir du néant surgisse de l'être. Bon, surgir l'être, alors je dirais un plus-être. Vous voyez ça ? L'apparition d'un... On pourrait transformer le texte de cette manière-là. L'apparition d'un sur-être, si vous voulez, d'un développement dans l'ordre de l'air ne peut avoir lieu à partir du néant. Hein? Donc ça reviendra au même. Bon. Alors l'apparition, ça va mieux comme chose, l'apparition d'un être supplémentaire, d'un sur-être, ne peut se faire à partir du néant. Parce que toute apparition d'un être supérieur, elle suppose une cause. Et que le non-être n'est pas une cause. Et vous rejoignez à dire toujours le non-être n'est pas une cause. Alors, est-ce que vous ne l'avez pas directement de cette manière-là? En disant le non-être n'est pas une cause, donc de lui rien ne peut survivre. Vous voyez? Alors, et sous-jacent, je suis d'accord, et sous-jacent cette affirmation, et sous-jacent le point de vue du principe de causalité. Vous voyez ? Mais on l'a directement. Je ne crois pas que c'est une conclusion du principe de causalité. Parce que je ne peux pas dire que c'est une conclusion en ce sens que c'est négatif. C'est plutôt une antithèse du principe de causalité. Je dirais, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est l'antithèse du principe de causalité ? Vous voyez ? Alors l'antithèse du principe de causalité, ça reviendrait, vous voyez, comme explication à l'axiome de contradiction. Tout ce qui surgit, tout ce qui apparaît de nouveau, implique une causalité. Tout ce qui surgit ne peut pas surgir du néant. Tout ce qui apparaît de nouveau ne peut pas surgir du néant. Oui. C'est ce que j'allais poser après. J'allais poser après. C'est ce que la dernière fois on avait dit qu'on regarderait cet axiome de non-contradiction. Je crois que c'est la dernière chose qu'on n'a pas regardée explicitement. Alors c'est intéressant à voir. On est, bon, alors ici, je crois qu'on peut dire que c'est l'antithèse du principe de causalité. Et ce n'est pas une conclusion du principe de causalité. Et c'est en ce sens-là qu'en lui-même, il implique son impossibilité. En tant qu'antithèse du principe de causalité. et parce qu'il est antithétique par rapport au principe de causalité, pour, en dernier lieu, pour bien comprendre cette antithèse, il faut comprendre que nous sommes là en face d'une application de l'axiome de Montagne. Être et non-être. Dès que vous avez être et non-être, tout de suite l'axiome de contradiction est vide. Et, or ici, c'est bien non-être qui est être. Alors l'axiome de contradiction, immédiatement, est présent. C'est pour ça que je dirais que c'est sous la lumière de l'axiome de contradiction que nous pouvons comprendre l'évidence que du non-être ne peut surgir l'être. Parce que si vous n'acceptiez pas, prenez l'inverse, hein, si vous n'acceptiez pas le principe de non-contradiction, l'axiome de non-contradiction, vous pourriez dire les générations spontanées. La fameuse axiome de la génération spontanée. Tout d'un coup, j'avais bien regardé devant moi, hier, il n'y avait pas de pétard. Et aujourd'hui, j'en vois un. Du non-être, du non-tétard apparaît le tétard. Génération spontanée. C'est la génération spontanée d'Albert Le Grand, et au Moyen-Âge. Et la génération spontanée prenait les anciens. Parce qu'ils ne voyaient pas qu'à travers la matière, on était en face d'une matière vivante qui cachait des semences. Il croyait que c'était du non-être. Alors, si je n'accepte pas le principe de non-contradiction, l'axiome de non-contradiction, alors je pourrais dire, oui, il peut y avoir en même temps être et non-être. Et s'il peut y avoir en même temps être non-être, ça veut dire que l'être a pas surgi du non-être. Et c'est pour ça que je crois qu'on peut dire c'est un principe antithétique, un jugement, disons pas un principe, c'est pas un principe. Un jugement antithétique du jugement de causalité. Et que ce jugement de causalité me fait comprendre par le fait même combien ce jugement ne peut pas... Enfin, il est évident, il est impossible que l'évidence de ce jugement apparaît à partir de là. Parce que tout jugement négatif présuppose un jugement positif. Vas-y, c'est bon. Alors, je vais vous demander d'abord de me l'énoncer. Je vais d'abord l'énoncer. Bon, alors, on va l'énoncer. Parce qu'au fond, c'est intéressant à regarder. Je dirais très intéressant à regarder. Bon, l'histoire du principe de causalité. Ce serait un très beau mémoire à faire. Une mémoire de temps, pas tellement difficile, mais très intéressant à voir. Et, comment le principe de causalité apparaît sous des modalités très très différentes en Occident. Depuis son apparition à partir de la philosophie grecque des présocratiques, il est présent dans les présocratiques. Au fond, on a commencé à philosopher à partir de la théologie grecque. Pour lui, vous posez la question, la suppression de la causalité permettait-elle encore de philosopher? Est-ce que tout philosophie ne présuppose-t-elle pas le principe de causalité? Parce que toute philosophie implique la saisie d'un ordre, le propre du sens d'ordre. Alors, si je prends à partir de là, oui, parce que c'est intéressant pour essayer de, en même temps, de voir génétiquement comment les choses sont nées. C'est toujours très important. Le propre du sens d'ordre. Alors, est-ce que le principe de causalité n'est-il pas en premier lieu sur le fait de l'exister d'un ordre? S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de philosophie. L'anarchie supprime les philosophes. C'est la première chose qui saute. Bien, ici, l'anarchie supprime les philosophes. Il n'y a plus de possibilité de philosopher. Parce que le philosophe, c'est le sage qui ordonne, qui saisit un ordre. Or, dans tout ordre est présent le principe de causalité. Tout ordre présuppose une cause. Tout ordre présuppose une cause. Je crois que c'est la première chose que j'ai dit. Voyez, on pourrait se demander hein, si c'est la question de l'ordre ou la question du mouvement. Et je crois que c'est l'ordre qui est le fondement de toute pensée philosophique. Parce que le mouvement, on pourrait très bien uniquement le décrire. Tandis qu'un ordre ne peut pas être décrit. il doit être pensé. Pas la même chose. Le mouvement, je peux très bien, à partir du mouvement, saisir le principe de causalité. Mais est-ce que ce n'est pas plus fondamental de saisir à partir de l'ordre ? Ça, question difficile, de critique, hein, c'est une question de critique, ça. C'est intéressant à voir. Est-ce que le principe de causalité se fonde sur le point de vue du mouvement, ou est-ce que le principe de causalité se fonde sur le principe de l'ordre ? Si on est un peu à tendance pythagoricienne, et tous les grands philosophes sont à tendance pythagoricienne, hein, toujours un peu, c'est les mathématiques. Hein. Alors, si on est à tendance pythagoricienne, c'est bien évident que c'est l'ordre. C'est le test de voir si vous avez une pensée un peu pythagoricienne. C'est l'ordre, le premier. Si vous avez une tendance uniquement physicienne, c'est le mouvement. Les premiers physiciens et les pythagoriciens. Au fond, les deux, je crois, ont été au point de départ de notre philosophie occidentale, si je regarde le point de départ de la philosophie grecque, c'est les physiciens et les pythagoriciens. Et les deux se sont réunis à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait la fusion des deux ? Héraclite et Parménide restent encore dans les positions, et puis alors il y a la fusion des deux chez Platon, et la fusion des deux chez Aristote. Pythagoricien. Alors, comment énoncer le principe de causalité du côté du mouvement ? Parce que le mouvement, je le constate. Je peux dire que tout ce qui apparaît de nouveau, c'est vraiment ce qui apparaît de nouveau dans la transformation du mouvement, dans le changement. Tout ce qui apparaît de nouveau dépend d'un autre. Je suis d'accord. Principe de causalité, vu du côté du mouvement. Tout ce qui apparaît de nouveau dépend d'un autre. Voici ce qu'on dit. D'un autre. Cet autre étant sa cause. Donc tout ce qui apparaît de nouveau dépend d'un autre. Si je me mets du côté de l'ordre, je dirais que tout ordre dépend d'une mesure. Vous voyez, je saisis, c'est très amusant parce que d'un côté on saisit la cause formelle, de l'autre côté on saisit la cause efficiente. D'un côté on saisit la cause formelle, causalité formelle exemplaire, et d'autre côté la causalité efficiente. Alors c'est de savoir laquelle est saisie en premier lieu. Est-ce que c'est la causalité efficiente, est-ce que c'est la causalité formelle. C'est intéressant. C'est intéressant à se poser comme problème. On peut dire tout ce qui est ordonné, tout ce qui implique un ordre, dépend d'un ordre. Donc vous avez des deux côtés dépend d'un autre. Et relatif à un autre. Tout ce qui est ordonné, tout ce qui implique un ordre. Tout ce qui implique un ordre est relatif à un ordre. Donc tout le monde, on peut accepter ça comme principe. Et de manière de concevoir tout à fait premièrement le principe de causalité. Toujours le lien entre l'antécédent et le conséquent. Comme Kant dira. Toujours, c'est que je saisis un fait qui me renvoie à un autre. Donc, un conséquent m'oblige de poser un antécédent. Et c'est un lien de nécessité qui existe entre les deux. Tout ça dépend d'un autre. Et c'est un lien de nécessité. Ce lien de nécessité est ou dans l'ordre de la forme, ou dans l'ordre de l'exercice. S'il est dans l'ordre de la forme, c'est le point de vue de l'ordre, et c'est la cause formelle. S'il est dans l'ordre de l'exercice, c'est la cause efficiente. C'est évidemment la cause efficiente et la cause formelle qui sont saisies en premier lieu. Vous n'avez qu'à tout simplement réfléchir un instant quand vous grattez sur du papier. En prenant des notes, j'espère. Mais quand vous grattez sur du papier, bon, il y a un petit effet, un petit résultat. Il y a un gribouille. Bon, il y a un résultat. Alors, causalité, efficience. Et puis, il y a un ordre dans le gribouille pour pouvoir le relire. Alors, vous avez les deux. Vous avez la détermination et vous avez l'efficience. L'exercice. Les deux. Donc là, vous saisissez immédiatement les deux causalités. Normalement, vous réfléchissez à ce que vous écrivez. Normalement. N'est-ce pas ? Vous réfléchissez à ce que vous écrivez et vous avez le courage d'écrire et de vous maintenir dans l'éveil pour écrire. Dès qu'il n'y a plus de courage et que vous êtes fatigué et vous vous endormez, l'efficacité s'arrête. Vous pouvez continuer de penser. Pas arriver. C'est très bien. Et donc la causalité efficiente du côté de l'exercice est première quadnos et l'autre est plus profonde. Bon, alors je réfléchis. Tout ce qui appartient, tout ce qui apparaît de nouveau dépend d'un autre. Je suis ici en face d'un principe. Quel est le critère de vérité de ce principe? Alors, comment ce principe est-il apparu? Il est apparu grâce à une vérité. Si, je vais répéter ça plusieurs fois, mais c'est bien le cas. J'explique pourquoi, autrement, je l'ai bien. Ce n'est pas évident, ça. Ça présuppose des quantités d'expérience. C'est à partir d'une quantité d'expérience que j'ai découvert ce principe et que je peux le donner de cette manière-là. Comment je ne le donnerai pas immédiatement, spontanément. Hein. On n'est pas à n'importe qui, à l'homme de la rue, de dire ça, de dire directement ça, il ne le dira pas. Il n'y a pas réfléchi. Tandis que vous, ayant beaucoup réfléchi au point de vue philosophique, vous dites ça spontanément. Tout ce qui apparaît de nouveau dépend d'un autre. Bon, c'est une induction. Une fois que j'ai saisi ça, je vois le lien de nécessité qui existe entre les deux. Tout ce qui apparaît de nouveau est relatif à un autre, dépend d'un autre, est relatif à un autre. Ça veut dire, hein, si j'essaie de te dire la signification de la chose, c'est que une réalité limitée dans son être, dépend d'un autre. Ça apparaît de nouveau. Ce qui apparaît de nouveau, ça apparaît à partir d'une réalité qui implique une potentialité. Parce qu'avant, ce nouveau n'existait pas. Donc, c'est toujours l'acte de ce qui est de puissance. Toujours. Ça ne peut pas être autrement. Donc, ça dépend d'un autre parce que ce n'est pas la puissance qui existe. Ça dépend d'un autre. Donc, je peux l'expliquer directement en fonction des termes impliqués. Mais maintenant, je vais un peu plus loin et je veux savoir, est-ce que je suis en face d'une vérité évidente de son propre critère en lui-même? Puisque ce principe est évident, il a son principe, son critère en lui-même. Il a son critère en lui-même. Si vous saisissez les termes, ben vous saisissez immédiatement. Donc il n'y a pas de critère à chercher en dehors. Donc, toujours quand il s'agit d'un principe. C'est la signification des termes s'appellent mutuellement et essentiellement l'un par rapport à l'autre. Et il a un fondement dans la réalité. C'est ça qu'il faut bien voir. Alors ça, c'est la mesure derrière de ce principe. Parce que ce principe se fonde dans la réalité. Ce principe n'est pas uniquement à la différence du néant qui se fonde dans l'intelligence. Là, il se fonde dans la réalité. Il se fonde dans quoi? Il se fonde dans la réalité nue. C'est la réalité nue qui, comme telle, est la mesure de cette affirmation et de ce principe. Et donc, en réalité, le dernier critère réaliste n'est pas le critère au sens propre, je dirais qu'il est la mesure de ce principe. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le critère est intrinsèque à l'affirmation. Quand il s'agit d'un principe, il ne peut pas y avoir un critère en dehors du principe, je vous l'ai déjà dit. Parce que s'il y avait un critère en dehors du principe, il n'y aurait plus de principe. Le principe serait tout simplement relatif à ce critère. Et alors ce critère, où serait un nouveau principe, ou qu'est-ce qu'il serait? Il serait la réalité. Mais la réalité, elle, n'est pas le principe. Donc la réalité ne peut pas être le critère du principe. Mais la réalité peut être la mesure du principe. Pas la mesure. Donc le critère de ce principe, c'est le principe lui-même. Et la mesure de ce principe, c'est la réalité du champ. Comme le critère de ce principe, tout ce qui implique un ordre, tout ce qui est ordonné, est relatif à un autre, dépend d'un autre, c'est exactement la même chose. C'est que l'ordre implique une unité dans la diversité, et que cette diversité n'explique pas l'unité qui est présente dans cette diversité. Et donc, il faut dépendre d'un autre. Il dépend d'un autre. Il est relatif à un autre. Donc, là encore, ce principe s'explique directement par lui-même. Il a en lui-même sa propre signification qui fait qu'il s'impose à moi. Il a donc son critère de vérité intrinsèque. Et la même chose, la réalité ordonnée est la mesure de ce principe. Alors je peux renvoyer à l'induction, l'induction renvoie à la réalité qui est la mesure de ce principe. Ça va comme ça ? Bon, alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais réfléchir avec vous sur l'axiome. Parce qu'on dit que ce n'est pas un principe. Alors, pourquoi que ce n'est pas un principe et que c'est un axiome ? Aristote dit axiome. On a dit ensuite principe de non-contradiction. Comment ça se fait ? Là encore, c'est un petit glissement dans les noms qui sont intéressants à voir. Il faudrait voir à partir de quel moment le principe de non-contradiction a été dit principe de non-contradiction. Je ne sais pas. Ça, c'est intéressant. Si parmi vous, il y en a un qui le sait, ça m'intéresserait. Aristote dit axiome. Or, l'axiome n'est pas un principe. Pas la même chose. L'axiome n'est pas un principe. Un principe au sens fort, au plan philosophique, en principe au sens fort. Un principe est toujours lié au jugement d'existence. L'axiome n'est pas toujours lié au jugement d'existence. Il est lié au possible, à l'intelligibilité. Mais il n'est pas lié directement. L'axiome, c'est nous qui le produisons, comme une opinion. Alors, quand on dit que le principe de non-contradiction, quand on dit l'axiome de non-contradiction, c'est vrai, on est de son temps, et donc instinctivement, on dit le principe de non-contradiction. Parce que tout le monde le dit. Alors, on peut le dire, il ne faut pas tomber dans une espèce de purisme absolu, mais il faut comprendre que ce n'est pas un principe et que c'est un axiome. Alors, je l'énonce et puis nous allons essayer de comprendre. On ne peut pas dire en même temps, d'une même réalité et sous le même aspect, qu'elle existe et qu'elle n'existe pas. On ne peut pas dire en même temps, vous voyez, on ne peut pas dire, hein, le legetel, hein, c'est ça, le legetel. On ne peut pas dire, ça, c'est très intéressant de voir ça, il faut toujours être très attentif à la manière dont on énonce. On ne peut pas dire en même temps, d'une même réalité et sous le même aspect, il y a les trois conditions, que cette chose existe ou qu'elle n'existe pas. Qu'elle est ou qu'elle n'est pas. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'est l'affirmation et la négation. En fond, c'est un axiome en ce sens que c'est la loi. C'est ça, c'est une loi. C'est pas un principe, c'est une loi. Un axiome, c'est une loi. Ça exprime un rapport. Un principe touche la réalité dans son existence. Une loi exprime simplement un rapport, une harmonie, un ordre, etc. C'est beaucoup plus formel une loi, un principe. Et cet axiome exprime alors la loi fondamentale de l'affirmation et de la négation. Puisque la première affirmation, c'est exister, ceci est. La première négation, ceci n'est pas. J'essaie de comprendre quel est le lien entre ceci et ceci n'est pas. Et pour saisir le lien entre ceci et ceci n'est pas, je dis que quand je dis d'une réalité ceci est, je ne peux pas dire en même temps qu'elle n'est pas. Alors on a précisé, attention, dans certains cas je peux le dire. Dans certains cas je peux le dire. Parce que je peux affirmer d'une réalité complexe qu'elle est et en même temps qu'elle n'est pas, sous un autre aspect. Je peux dire cet homme existe, mais cet homme n'est pas vivant. Je ne sais pas s'il est mort ou pas. Il y a un moment comme ça entre les deux, je ne sais pas. Il est, mais est-ce qu'il est vivant? C'est donc un rapport tout à fait différent. Être et vivant. Je peux affirmer et nier. Je peux affirmer et nier par rapport au futur. La fameuse question des futurs contingents. Par rapport au futur contingent, je peux être prophète. Parce que je peux affirmer et nier en même temps. Il est possible que demain il continue de faire beau et faire très chaud. Il est possible que demain il y ait un orage. Je peux affirmer et nier en même temps. Ce n'est pas contradictoire. Donc, on va saisir progressivement, et ça c'est très intéressant, on va saisir progressivement les possibilités, les cas, les possibilités où l'affirmation et la négation peuvent se dire en même temps. Et on va préciser que l'affirmation d'une réalité, quand j'affirme quelque chose d'une réalité, je ne peux pas en même temps, successivement, je peux. C'est le grand avantage de la dialectique. C'est successif. On arrivera toujours à s'en tirer. C'est successif. Alors, soi-disant, on va dépasser la contradiction. Mais pas du tout, c'est successif. Alors, on ne peut pas en même temps. C'est ce qu'on dit. C'était vrai hier, mais aujourd'hui, je vous affirme, c'est plus du tout comme ça. Donc, je peux affirmer le contraire. Parce que c'est tout à fait autre chose. Les circonstances ont changé. Alors, parce que les circonstances ont changé, j'ai parfaitement le droit de dire autre chose. La fameuse affirmation, vous savez, la restriction mentale. La restriction mentale, c'est ça. C'est pour pouvoir affirmer et nier sous deux aspects différents. D'un côté, je fais une restriction, de l'autre côté, je n'en fais pas. Je peux affirmer et nier en même temps. Madame n'est pas là. Elle est là. Physiquement. Mais psychologiquement, elle n'est pas là. Parce qu'elle est occupée à autre chose. Donc, madame n'est pas là. Elle n'est pas capable de vous recevoir aujourd'hui. Elle est malade. Elle m'a prévenu de ne recevoir personne, de le faire poliment. Donc madame n'est pas là. Alors, en même temps, vous voyez, j'affirme je vous. Sous deux aspects différents. Contradictoire. Alors on va préciser, c'est ça qui est intéressant. Cet axiome, il n'est pas tombé comme ça du ciel d'un seul coup. On voit très bien que ça présuppose des quantités d'expériences. Et on a précisé qu'on ne peut pas affirmer en même temps, sous le même aspect, de la même réalité, qu'elle est et qu'elle n'est pas. Alors on a vu les trois conditions successives. Pour bien préciser qu'on ne peut pas en même temps affirmer les dons. C'est la loi que je précise de l'affirmation de la négation. C'est pas autre chose que ça. C'est le lien qui existe entre l'affirmation et la négation au point de vue de ma vie intellectuelle. Alors, c'est très important, puisque c'est l'hygiène, si vous voulez, la respiration profonde de mon intelligence qui affirme et qui nie. Donc, c'est cette hygiène profonde de l'intelligence qui affirme et qui nie que j'essaie de préciser. Dans quel cas je pourrais, en même temps, à l'égard de la même réalité, affirmer et nier. Alors, la question du temps intervient, parce que dès que j'affirme, le temps intervient. Et c'est pour ça que le temps joue un rôle si important. Parce que dès qu'il y a l'affirmation, dès qu'il y a le verbe, il y a le temps. Alors, le temps est là, présent. L'affirmation du jugement d'existence. L'affirmation de la réalité implique le point de vue du temps. Et la négation implique le point de vue du temps. Donc, dans la relation que je mets entre l'affirmation et la négation, la question du temps intervient. Fatalement, ça ne peut pas être autrement. Si le temps intervient, il faut voir que si il n'y a plus simultanéité, alors il pourrait y avoir un changement. Parce que dans le futur, les choses peuvent changer. Et ça montre le conditionnement de mon affirmation. C'est une loi qui exprime le conditionnement de mon affirmation et de mon négation. Et de voir comment affirmation et négation sont deux opérations intellectuelles qui s'excluent si de fait toutes les conditions y sont. Autrement, elles ne s'excluent pas. Dans l'ordre du possible, elles ne s'excluent pas. Dans l'ordre de la succession du devenir, elles ne s'excluent pas. Elles ne s'excluent que lorsque je suis en présence du jugement d'existence qui affirme que telle réalité est. Vous voyez l'importance du jugement d'existence. Alors, quelle est la vérité de cette loi? C'est justement le critère de vérité, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Il n'y en a pas d'autre. Mais c'est un critère de vérité, vous comprenez bien, qui n'est pas immédiat. Hein? Le critère de vérité est interne dans cet axiome. Est-ce que la relation que j'établis entre affirmation et négation, est-ce que c'est valable? Et est-ce que je trouverai des cas où, de fait, ce que j'ai dit n'est plus valable. Mais le fondement, c'est le jugement d'existence. Alors, je vous souhaite de bons examens si vous devez passer des examens sur l'objectif. Vous la passez, moi, docteur? Très bien. Très bien.
Peu de temps que j'aurai. Alors ça, c'est donc pour la métaphysique,
parfait.
La première branche. Alors j'ai tâché de prendre tous les problèmes.
Ça va très bien.
Je vois le côté topique, hein, pas historique. Je veux pas...